Državni izpitni center. Splošna matura 2017. Lepo pozdravljeni. Pričenja se reševanje izpitne pole slušnega razumevanja francoščine. Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodiščno besedilo in nalogo, ki se nanj nanaša. Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslušali besedilo in lahko že med poslušanjem nalogo sproti reševali. Vsako besedilo boste poslušali po dvakrat, vmes pa bo premor za reševanje. Začetek in konec besedila bo označeval takle zvočni znak. Rešitve, ki jih pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, vpisujte v izpitno polo v zato predvideni prostor. Pišite čitljivo in skladno s pravopisnimi pravili. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z nič točkami. Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha. Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo. Del A. Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
France Info. France Info. La bataille va sans doute être âpre, très dure. Aucun des belligérants ne va faire de cadeaux. Pourtant, nul ne s'attend un tel résultat. Aucun homme, aucun proche du roi de France, Jean II, ne semble prévoir le drame qui va se jouer là, sur la terre du Poitou. Le roi Jean II est né en 1319, il est devenu roi de France en 1350. Retrouvons-le 6 années plus tard, sur la route de Poitiers. Il est venu combattre les Anglais qui, depuis plusieurs mois, tuent, pillent et saccagent la terre de France. Édouard III d'Angleterre est resté à Londres. C'est son fils, le prince de Galles, surnommé le prince noir, qui dirige le combat. Français et Anglais vont s'affronter dans une lutte sans merci, ce 19 septembre 1356. Au cours de cette bataille de Noyers-Maupertuis, des dizaines de milliers d'hommes vont rester sur le champ de bataille. Et malgré son courage, qui lui vaut le surnom de bon, c'est-à-dire de brave, le roi Jean II va plier devant l'ennemi. Il était pourtant entouré par ses fils, qui dirigeaient les armées. Le plus jeune était à ses côtés. Le prince Philippe, âgé de 14 ans, encourageait et protégeait son père en lui criant à chaque fois qu'un ennemi approchait « Père, gardez-vous à droite ! Père, gardez-vous à gauche !» Mais rien n'y fait. Ce jour-là, la France rend les armes. Le roi Jean II est fait prisonnier, il est emmené jusqu'à Bordeaux, d'où il embarque pour l'Angleterre. Mais cette défaite va peser lourdement dans notre histoire. Jean le Bon laisse derrière lui un pays sans roi, dirigé par son fils le Dauphin, et surtout un état exsangue et un peuple appauvri. La rançon exigée par le souverain anglais pour sa libération est fixée à 3 millions d'écus d'or, une somme faramineuse. Après de nombreuses tractations, Jean le Bon est finalement libéré au bout de 4 ans. De retour en France, comprenant la gravité de la situation économique, il signe une première ordonnance capitale. C'est l'acte de naissance du franc, une nouvelle monnaie destinée à payer sa rançon. Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
France Info.
La bataille va sans doute être âpre, très dure. Aucun des belligérants ne va faire de cadeaux. Pourtant, nul ne s'attend à un tel résultat. Aucun homme, aucun proche du roi de France, Jean II, ne semble prévoir le drame qui va se jouer là, sur la terre du Poitou. Le roi Jean II est né en 1319. Il est devenu roi de France en 1350. Retrouvons-le 6 années plus tard sur la route de Poitiers. Il est venu combattre les Anglais qui, depuis plusieurs mois, tuent, pillent et saccagent la terre de France. Édouard III d'Angleterre est resté à Londres. C'est son fils, le prince de Galles, surnommé le prince noir, qui dirige le combat. Français et Anglais vont s'affronter dans une lutte sans merci, ce 19 septembre 1356. Au cours de cette bataille de Noyers-Maupertuis, des dizaines de milliers d'hommes vont rester sur le champ de bataille. Et malgré son courage, qui lui vaut le surnom de bon, c'est-à-dire de brave, le roi Jean II va plier devant l'ennemi. Il était pourtant entouré par ses fils, qui dirigeaient les armées. Le plus jeune était à ses côtés. Le prince Philippe, âgé de 14 ans, encourageait et protégeait son père en lui criant à chaque fois qu'un ennemi approchait « Père, gardez-vous à droite! Père, gardez-vous à gauche !» Mais rien n'y fait. Ce jour-là, la France rend les armes. Le roi Jean II est fait prisonnier, il est emmené jusqu'à Bordeaux, d'où il embarque pour l'Angleterre. Mais cette défaite va peser lourdement dans notre histoire. Jean le Bon laisse derrière lui un pays sans roi, dirigé par son fils le Dauphin, et surtout un état exsangue et un peuple appauvri. La rançon exigée par le souverain anglais pour sa libération est fixée à 3 millions d'écus d'or, une somme faramineuse. Après de nombreuses tractations, Jean le Bon est finalement libéré au bout de 4 ans. De retour en France, comprenant la gravité de la situation économique, il signe une première ordonnance capitale. C'est l'acte de naissance du franc, une nouvelle monnaie destinée à payer sa rançon.
Prehajamo k delu B. Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
France Info.
Installer un homme dans la nacelle d'un ballon? Mais vous n'y pensez pas. Sitôt que l'on monte à quelques mètres au-dessus du sol, l'air n'est sans doute plus respirable. Voilà ce que l'on pense à Versailles en cette année 1783. Alors comment les plus téméraires sont-ils parvenus à voler en ballon? La première expérience de l'invention des frères Étienne et Joseph de Montgolfier s'est déroulée au mois de juin 1783 à Annonay en présence des députés des États du Vivarais. Ce ballon gonflé à l'air chaud réussit à voler pendant près de 10 minutes avant d'atterrir 2,5 km plus loin. Devant le succès remporté par cette expérience, les Parisiens, un peu jaloux, réclament à leur tour un nouvel essai. Étienne de Montgolfier songe même à pousser un peu plus loin son expérience. Il rêve d'envoyer un homme dans le ciel. Mais très vite, il en est dissuadé. « C'est trop dangereux, lui dit-on. » Alors, pour savoir si l'air est respirable en altitude, on décide d'envoyer d'abord, comme d'habitude, des animaux. Un mouton, un canard et un coq. Cette expérience se déroule à Versailles devant le roi Louis XVI, la reine Marie-Antoinette et toute la cour. Ce 19 septembre 1783, le feu est allumé et la fumée gonfle rapidement l'aérostat. Une fois gonflé, le ballon et la cage installée en dessous sont lâchés. Le ballon grimpe à 500 mètres. Poussé par les vents, 8 minutes plus tard, il se pose en lisière de la forêt de Vaucresson. Plus de peur que de mal pour les passagers, même si le coq a eu le bec cassé au moment de l'atterrissage. Ce jour-là, parmi les spectateurs, se trouve un certain Pilâtre de Rosiers. Il va devenir l'un des premiers hommes à s'élever dans les airs.
Deux mois après l'expérience versaillaise, le 21 novembre 1783, Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande grimpent dans une nacelle. Peu avant 14 heures, leur ballon décolle, puis ils grimpent à près de 950 mètres d'altitude, avant de se poser en douceur, 8 kilomètres plus loin, sur le pré de la Butte aux Cailles. Les deux premiers aéronautes de l'histoire sont revenus sains et saufs.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
France Info. France Info.
Installer un homme dans la nacelle d'un ballon? Mais vous n'y pensez pas. Sitôt que l'on monte à quelques mètres au-dessus du sol, l'air n'est sans doute plus respirable. Voilà ce que l'on pense à Versailles en cette année 1783. Alors comment les plus téméraires sont-ils parvenus à voler en ballon? La première expérience de l'invention des frères Étienne et Joseph de Montgolfier s'est déroulée au mois de juin 1783 à Annonay en présence des députés des États du Vivarais. Ce ballon gonflé à l'air chaud réussit à voler pendant près de 10 minutes avant d'atterrir 2,5 km plus loin. Devant le succès remporté par cette expérience, les Parisiens, un peu jaloux, réclament à leur tour un nouvel essai. Étienne de Montgolfier songe même à pousser un peu plus loin son expérience. Il rêve d'envoyer un homme dans le ciel. Mais très vite, il en est dissuadé. « C'est trop dangereux !» lui dit-on. Alors, pour savoir si l'air est respirable en altitude, on décide d'envoyer d'abord, comme d'habitude, des animaux. Un mouton, un canard et un coq. Cette expérience se déroule à Versailles devant le roi Louis XVI, la reine Marie-Antoinette et toute la cour. Ce 19 septembre 1783, le feu est allumé et la fumée gonfle rapidement l'aérostat. Une fois gonflé, le ballon et la cage installée en dessous sont lâchés. Le ballon grimpe à 500 mètres. Poussé par les vents, 8 minutes plus tard, il se pose en lisière de la forêt de Vaucresson. Plus de peur que de mal pour les passagers, même si le coq a eu le bec cassé au moment de l'atterrissage. Ce jour-là, parmi les spectateurs, se trouve un certain Pilâtre de Rosiers. Il va devenir l'un des premiers hommes à s'élever dans les airs. Deux mois après l'expérience versaillaise, le 21 novembre 1783, Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande grimpent dans une nacelle. Peu avant 14 heures, leur ballon décolle, puis ils grimpent à près de 950 mètres d'altitude, avant de se poser en douceur, 8 kilomètres plus loin, sur le pré de la Butte aux Cailles. Les deux premiers aéronautes de l'histoire sont revenus sains et saufs.
Končuje se slušno preverjanje francoščine. Nehajte pisati, zaprite izpitno polo in jo skupaj z ocenjevalnim obrazcem položite na rob mize. Nasvidenje in srečno!